Le psaume sous les étoiles, chapitre 11. La mort d'Isabeau nous plongea, Florette et moi, dans un deuil inexprimable. Nous n'avions même pu lui rendre les derniers devoirs, car vers la fin de l'après-midi, il nous avait fallu partir avec Jean Cavalier, de peur d'être investi dans la liquaire. Quels adieux déchirants! Nous laissions là, avec la dépouille d'une sainte, les êtres qui nous étaient chers, doutant si nous les reverrions jamais. La vie d'aventure et de combat recommença pour nous. L'été vint, beaucoup de nos compagnons nous quittaient pour aller faire les moissons, et nos opérations se trouvaient ainsi un peu paralysées. Nous allions par petites bandes, détruisant çà et là quelques détachements ennemis, nous attachant beaucoup à surprendre les courriers. Les populations décimées et ruinées, toujours sur le qui-vive, se réfugiaient dans une sorte d'abandon mystique, n'obéissaient plus qu'aux inspirations des prophètes. Ces inspirations devenaient toujours davantage le seul guide de nos chefs. Devait-on attaquer l'ennemi, se dérober à sa poursuite? Fallait-il marquer le lieu d'une assemblée? Nos prophètes se mettaient d'abord en prière. Ils invoquaient l'esprit qui aussitôt leur répondait. Et nous obéissions aveuglément à ses ordres. Et si le soir l'esprit déclarait que nous n'avions rien à craindre pour la nuit, nous dormions confiants dans les bois, sous sa garde immédiate et sans placer de sentinelles aux avenues du campement. Florette faisait tous les jours des prières et des exhortations. Elle avait souvent des visions qui exaltaient et fascinaient nos frères. Quand elle passait, un frémissement courait. Ceux qui avaient quelque chose à se reprocher détournaient leurs yeux d'elle. Alors, elle les appelait par leur nom, et tout de suite, ils confessaient publiquement leurs péchés, versant des larmes de repentance, et ils recevaient presque aussitôt la peine de leur faute, qui était parfois celle des verges. Un jour, elle découvrit un traître qui s'était glissé parmi nous depuis quelque temps et se signalait par son ardeur aux représailles. Suivant l'indication de l'esprit, on trouva, cousu dans la doublure de sa veste, une lettre de l'intendant Baville, accablante pour lui, et Cavalier le fit passer par les armes. Elle était redoutable surtout aux pillards qui, dans les villages, prenaient de l'interdit, comme on disait. Elle les découvrait sans point d'hésitation après avoir invoqué l'esprit. L'exaltation de la foi était venue chez tout ce peuple au point qu'il vivait dans une merveille incessante. Je me rappelle qu'à une assemblée à Cannes, près de Lédignan, le frère Clarisse, dit Portefroid, qui était l'un de nos distributeurs de vivres, subit ce qu'on appelait l'épreuve du feu. Sur l'assurance de l'esprit qu'il n'aurait aucun mal, il entra dans un vaste brasier qu'on avait allumé dans la cour d'une tuilerie et en sortit sans être brûlé. Plus de 100 personnes étaient là qui m'affirmèrent avoir vu le miracle. Le bruit de ces prodiges se répandait au loin, et plus d'un papiste même en était troublé. Cependant, le maréchal de Montrevel ne cachait point qu'il lui répugnait fort de tirer sa noble épée de gentilhomme contre les gueux que nous étions. Il employait une partie des troupes à lui servir d'escorte pour venir à Alès voir sa belle maîtresse, Madame de Soustelle, et laissait à ses lieutenants le soin de ravager notre pays, dont il s'acquittait en conscience, enlevant ou massacrant les populations qu'il soupçonnait d'intelligence avec nous. Et il n'avait, hélas, que l'embarras du choix, car elles l'étaient toutes. Julien, surtout, se signalait par sa férocité. Un courrier qui nous était secrètement acquis nous avait communiqué une de ses lettres à Chamillard, où il proposait de labourer tout le pays et de faire main basse sur tous les paysans nouveaux convertis, sans distinguer l'âge ni le sexe. À la suite de l'affaire de la liquaire, on fit des informations contre Baduel, soupçonné d'intelligence avec les Camisards. Grâce aux bons offices de M. Desbaumes, l'inculpation ne fut pas retenue et mon parrain évita les galères. Baville, toutefois, lui fit dire peu après que le roi avait décidé qu'il prit son parti de se retirer hors du royaume partout où il lui conviendrait. Et c'est alors que le malheureux se retira à Genève. Quant à ma mère et à Nicole, elles restèrent auprès de la vieille Guillemette, malgré le danger qu'il y avait pour elles d'être enlevées comme otages, ainsi qu'on avait fait des parents de Cavalier et de tant d'autres. Florette était toujours ma sœur chérie. Nous ne nous quittions guère et nous embrassions souvent avec tendresse. Et quand parfois quelques troubles charnels se mêlaient à nos baisers, nous nous regardions et fondions en larmes, songeant à la pauvre Isabeau. Les jours passèrent cependant. Notre chagrin peu à peu s'adoucit, et je recommençais alors à souffrir, à désirer violemment cette Florette délicieuse qui s'était promise à moi depuis si longtemps déjà. Souvent je lui disais « Puisque Daniel n'a pu nous unir, ami, je t'en supplie, demandons à l'un de nos prophètes de célébrer notre mariage. Je ne vis plus si tu n'es pas ma femme. » Et j'ajoutais à voix basse et suppliante « Oh, ma petite fille adorée, ne dormiras-tu jamais dans mes bras ?» Elle me regardait sans trouble ni feintise. « J'y ai dormi, ô des baleines, ne t'en souvient-il pas? Et conçois-tu plus ineffable amour que celui qui, alors, me serra contre ton cœur? Pour la joie des époux, ô gens, l'esprit nous l'a promise merveilleuse, et quand l'heure viendra, nous entendrons des voix célestes chanter notre union dans le ciel. » Que répondre? Que dire à cet être adoré qui vivait en plein miracle et dont le sourire m'enivrait? Notre dure vie au grand air, les sursauts, les alertes, les chaudes caresses de l'été avaient bruni tant soit peu son visage, mis comme un or flambant dans ses yeux bleus, magnifié la souple force de son corps. Sa beauté avait pris quelque chose de naïf et de solennel à la fois qui m'impressionnait étrangement. Nous vivions dans une intimité de toutes les heures et n'avions rien de caché l'un pour l'autre. Nos âmes étaient si parfaitement confondues qu'il nous suffisait de nous regarder pour savoir à quoi nous pensions. Ces premiers mois d'été, parmi les garrigues fleuries, après les escarmouches et les courses, quand le soleil tombait sur nos Cévennes, que d'heures délicieuses nous avons vécues, la main dans la main, auprès du campement. Maintenant, je n'étais plus jaloux de l'esprit. Je me laissais aller au courant des choses terribles et merveilleuses qui m'environnaient. Je n'avais plus de volonté propre. Florette vivait en moi, pensait pour moi. Cependant, vers la fin de juillet, le bruit se répandit que l'intendant Baville avait demandé à la cour l'autorisation de brûler tous les villages, hameaux et masses des Cévennes. Nous n'y pûmes d'abord y croire, tant l'intérêt du roi s'opposait de toute manière à cette dévastation. Et nous avions beau essayer d'en découvrir les motifs, nous n'y parvenions pas. Pour se justifier de ce crime atroce contre le royaume de France, Baville a publié qu'il s'agissait pour lui de nous priver du grand refuge où nous allions nous refaire en cas de revers. Or, il savait mieux que personne que jamais nous ne sommes allés dans les Cévennes pour nous y refaire après un échec, car c'est un pays pauvre. Il suffisait à peine à ravitailler les petites bandes de Castanets, de Mazel, de Coudert, qui y roulaient sans avoir jamais grande influence sur les événements. Les troupes importantes, celles de Cavalier, de Roland, de Joanny, opéraient dans les garrigues ou le rebord des montagnes, tous pays riches où elles pouvaient vivre largement et se ravitailler dans la complicité de toute la terre. D'ailleurs, si Baville eût simplement voulu nous empêcher de nous restaurer dans les Cévennes, comme il l'a prétendu, il lui eût suffi de saisir les ressources de ces montagnes, d'en détruire les récoltes, d'en enlever les populations et de les transporter au loin, ainsi qu'il le fit pour les gens de Mialet, de Somane et de tant d'autres villages. Il n'était pas besoin de détruire les maisons, de couper les arbres, de faire un désert d'une région de France où une minorité de paysans catholiques vivait en paix avec les Huguenots depuis près d'un siècle. Quoi qu'il en fût, nous eûmes bientôt la preuve que les projets de Baville avaient été approuvés par la cour après quelques hésitations. Jean Cavalier en fut profondément ému. « Jamais nous ne pourrons, me dit-il, réduit à nos propres forces, empêcher cette abomination. Il faut à tout prix que nous suscitions un mouvement général. Et malgré la répugnance de Catinat et de Ravanel, je pense que nous ne devons pas tarder davantage à lier parti avec l'abbé de la Bourlie. » Ce cadet de l'illustre famille de Guiscard avait conçu contre la tyrannie de la cour de Versailles un plan de soulèvement qui faillit réussir, ce qui eût fait de son auteur un grand homme et un sauveur, alors qu'il n'est plus aujourd'hui, après son échec, qu'un brouillon et un intrigant, un bouc émissaire chargé des péchés d'Israël. Ainsi en est-il des hommes de révolution. La Bourlie avait vécu en Hollande et connaissait à fond les institutions de ce pays ainsi que celles de l'Angleterre. Il les comparait à l'anarchie tyrannique qui régnait chez nous. Il rêva de rendre aux provinces leur liberté légale et de reconstituer le royaume de France sur le plan de sa vraie tradition, c'est-à-dire en remettant le pouvoir du roi dans ses justes limites, en rendant la vie aux différents pays de la couronne que l'on voyait de plus en plus absorbés, défigurés et ruinés au bénéfice de la cour. Dès qu'il apprit la révolte des paysans cévenols, il comprit qu'il y avait là une étincelle capable de tout embraser. Rentré en France, il s'était retiré dans sa maison de Vareille en Rouergue et, après s'y être fortifié, sous prétexte de sécurité personnelle, il y avait installé une imprimerie clandestine qui lui permettait de répandre à profusion dans tout le pays, voire parmi les troupes du roi, d'innombrables exhortations très bien appropriées à ceux qui devaient les lire. Il avait su intéresser à ses plans tout le Rouergue, les nobles et les parlementaires, parce qu'ils regrettaient leurs privilèges perdus ou menacés, les paysans parce qu'ils étaient accablés de misère et d'impôts, et que la Bourlie, très généreux de nature, savait aller droit à leur cœur. Aussi jouissait-il là-haut d'une popularité toujours croissante. Après avoir traité avec lui, nous attendions avec confiance le succès de notre conspiration, lorsqu'une terrible nouvelle se répandit dans nos camps. Les Cévennes flambaient. Par la faute stupide de Catina, la grande conjuration de l'abbé de la Bourlie, cadet de Guiscard, venait d'échouer misérablement. Dès qu'ils étaient arrivés à sa maison de Vareille en Rouergue, la Bourlie avait conduit nos envoyés, Catina, Dère et Pierrot, dans le canton de Lacône, où il leur avait remis le commandement de 200 nouveaux convertis. Ils devaient attendre là que le capitaine Boéton, grand chef des Rouergas, vint les rejoindre avec le gros des forces des deux religions. Une fois concentrée, notre petite armée se serait portée à l'imprévu sur Florac pour y donner la main à Castanet, à Salomon, Coudert et à Roland, cependant que Jean Cavalier, à courant du Pays-Bas, aurait coupé la retraite aux Miquelets et autres troupes qui déjà commençaient à détruire les villages cévenols. Malheureusement, Catina n'avait pu contenir la fureur de sa haine contre les papistes et, l'avant-veille du jour où le soulèvement général devait éclater, il s'en était allé brûler quelques églises. Aussitôt, nobles et bourgeois des deux religions lui couraient sus. L'alarme était donnée, des troupes arrivaient très vite d'un peu partout. Boéton, ne trouvant personne au rendez-vous et abandonné d'une grande partie des siens, se réfugiait avec 600 hommes dans le château de Ferrières, où il devait bientôt capituler. Dère, fait prisonnier, était rompu vif à Montpellier. Quant à la Bourlie, il se voyait réduit à quitter le royaume en fugitif. Les Cévennes flambaient. Montrevel et Baville y étaient venus eux-mêmes dès la fin de septembre pour présider à la destruction des 32 paroisses condamnées qui comprenaient plus de 450 villages et hameaux abritant une population de près de 20 000 âmes. Les dragons de Firmacon, de Lafare-Languedoc, les bataillons du Gast et du Blaisois accompagnaient presque aussitôt rejoints à Bar par le colonel de Marcilly avec deux bataillons de Soissonnais, deux de Royal-Comtois. Le marquis de Canillac amenait à Vébron le régiment de Rouergue, le comte de Peyre concentré en main de près de 3000 miliciens de Gévaudan. Julien était déjà sur place avec les grenadiers de Hainaut et d'Alsace. On le renforçait de 5 compagnies de Miquelet et de 800 miliciens de Gévaudan. Du pont de Montvert au Pompidou, de Vébron au collet de Dèze, les Cévennes flambaient. Montrevel avait publié une ordonnance enjoignant aux habitants des 32 paroisses d'avoir à se rendre immédiatement dans les lieux qu'ils fixaient, avec leurs effets, meubles et bestiaux, faisant terrible défense aux communautés épargnées de les recevoir. Tout le pays, sans distinction de religion, était plongé dans une consternation, terrifiée à la fois et menaçante. À la nouvelle qu'on avait aperçu deux vaisseaux flamands-saint-jois en vue de Maguelone, Montrevel était descendu précipitamment vers Sète avec Canillac. Julien, l'apostat, demeurait seul à l'œuvre de destruction. Et comme la cour avait répugné d'abord à ce qu'on mît le feu au village, il employait à les démolir des pics, des leviers, des pinces, des criques et autres instruments. Mais les vieilles maisons, solidement bâties et voûtées, résistaient aux démolisseurs, et la lenteur du travail désespérait Julien, lequel, à force d'instance, reçut enfin du roi l'autorisation d'allumer l'incendie. Alors, au témoignage de l'abbé Louvre-l'œil qui s'y trouvait, ce fut comme une tempête qui ne laisse rien à ravager dans un champ fertile ou dans une vigne féconde. Les maisons ramassées, les métairies écartées, les granges, les baraques, les cabanes, les chaumières, tous les bâtiments tombèrent sous l'action du feu, comme les fleurs champêtres, les mauvaises herbes et les racines sauvages tombent sous le tranchant de la charrue qui les coupe. Les Cévennes flambaient. En ayant chaque jour des nouvelles et n'osant s'aventurer dans ces montagnes couvertes de troupes, les Camisards, saisis d'une fureur sauvage, ne songeaient plus qu'à la vengeance et aux représailles. Les prophètes recevaient de l'esprit des ordres d'extermination et de massacre. Roland brûlait Sainte-Cécile d'Andorge. Cavalier se ruait sur les villages de Saturargue et de Saint-Cériès, et après avoir tout brûlé, y massacrait une centaine d'habitants. De leur côté, chez Chamborigo et chez Beaucaire, des bandes de cadets de la Croix ou camisards blancs s'étaient maintenant organisées, attaquaient les villages huguenots, les mettaient à feu et à sang, pillaient tout, n'épargnaient même point les anciens catholiques, tuaient, au dire de Montrevel, les femmes de 60 ans comme des poules. Ainsi, le lamentable échec des plans de la Bourlie rejetait cette lutte dans la sauvagerie étroite d'une guerre civile de religion, alors qu'elle eût pu devenir, pour le salut du royaume, une revendication nationale des pays de France contre la cour, cette cour lointaine et dissolue qui les menait à la ruine, violant à force ouverte leur pacte d'union à la couronne et révoquant les édits les plus solennels. Deux partis s'étaient formés dans notre troupe. Fallait-il continuer les représailles dans la plaine ou marcher sur les Cévennes, quitte à s'y faire écraser? Florette n'avait pu supporter l'horreur des massacres de Saturargue. Elle ne voulut plus demeurer avec la troupe, et je l'avais conduite à nos hôpitaux des cavernes d'Eusée auprès de Lucrèce la Vivaroise. Mais au bout de 8 jours, nos hommes se répandaient en murmures et réclamaient Florette, car les inspirations de nos prophètes ne s'accordaient plus au sujet des représailles, et l'esprit refusait de répondre à Jean Cavalier. J'allais donc chercher ma chère petite et la ramener à notre campement des bois de Monteil, où nous arrivâmes dans le moment que le soleil, déjà bas, illuminait de rayons rouges la vaste clairière où Jean Cavalier tenait conseil avec les principaux des nôtres. Ce fut une longue rumeur dès qu'on nous aperçut. Les hommes, éparpillés sous bois, couraient de partout, acclamaient Florette. « La voici » criait-il, « l'esprit va nous guider par elle !» Souriante, elle passait parmi eux, les appelait chacun par son nom, leur tendait ses mains qu'ils baisaient et serraient, leur parlait de leur mère ou de leur femme. Au conseil des chefs, on nous accueillit avec effusion. « Ma sœur Florette, » dit Cavalier, « quel parti faut-il prendre ? L'esprit, te répond-il. » « Non, frère Cavalier, il ne me répond point, et c'est qu'il y a sans doute impiété à l'interroger là-dessus. Christ ne nous a-t-il pas déjà répondu ? Cavalier, Cavalier, » ajouta-t-elle, « le sang innocent porte malheur. C'est à l'abîme que tu nous mènes, si tu le verses. » La hardiesse du propos stupéfia les assistants, et Jean Cavalier lui-même en fut un peu piqué. « Eh, sœur Florette, » dit-il, « que faut-il faire ? Montrevel brûle la montagne, moi je brûle la plaine. N'ai-je pas le devoir de nous venger ? Venge-nous donc sur l'ennemi féroce et non point sur les femmes et les enfants. Sais-tu qu'on incendie là-haut nos berceaux et nos tombes ? Qu'attends-tu pour courir au feu ? Nous ne pouvons rien aux Cévennes, les troupes y tiennent toute la terre. Je le sais. Mais je te dis en vérité que rien n'est impossible à qui a la foi. Si tu venais avec les tiens, si tu t'alliais à Roland, à Joanny, à Castanet, à Salomon, si vous saviez vous unir, ah, nous enfoncerions la porte des tyrans, nous bousculerions les incendiaires, mais tu ne veux pas venir, la foi te manque. » Elle se mit alors en prière, et tous les assistants s'agenouillèrent autour d'elle. Et l'esprit la saisit, et s'étant relevée, elle dit: « Me voici, mon enfant, calme l'angoisse de ton cœur, car le jour vient que tu verras mes cieux ouverts. Pars sans retard avec les Cévenols que te donnera mon serviteur Jean Cavalier, et t'en vas visiter les héros de ma colère. Tu frapperas à la porte de leur cœur, et tu leur demanderas secours pour la montagne du Tabor où l'orage gronde. Et ne te lasse point, mon enfant, car mon peuple est à l'agonie. » Et je t'ai choisi pour le consoler dans ses transes et lui tenir la tête alors qu'il va mourir. » C'est ainsi qu'après avoir été embrassé une nuit les notes de la liquaire, nous étions partis avec Méric et 30 Cévenols à cheval que nous avait donné Jean Cavalier. Nous avions visité Salomon, Coudert, Joanny, puis Roland. Aucun d'eux ne voulait s'engager trop avant dans la montagne du côté des incendies, mais chacun nous avait fourni un petit renfort. Et maintenant, ayant quitté Roland près de Sandras, et en menant une centaine d'hommes à cheval, nous allions par les bois de Malabouis, Égladine et le col Saint-Pierre, évitant villages et chemins royaux, marchant la nuit, suivant des sentiers de renards. Et nous nous dirigions vers l'Égoal pour joindre Castanet. Certes, je n'avais pas essayé de retenir Florette, de l'empêcher d'obéir à l'ordre de l'esprit. Puisqu'elle partait, je partais avec elle, il n'en pouvait être autrement. Et pourtant, l'avenir que nous affrontions, je le devinais inflexible et cruel. Après notre échec de Rouergue, je ne croyais plus au succès de notre entreprise. Roland et Cavalier, chefs nés, surgis spontanément du peuple, avaient trouvé, par simple don natif, une nouvelle manière de combattre qui déroutait les vieux officiers de Louis XIV. Ils les avaient parfois battus, ils les battraient encore, mais je les sentais incapables de se subordonner l'un à l'autre pour mener à bien des opérations d'ensemble. À quoi leur servirait de vaincre une fois de plus les dragons, à la vue même de la Tourmagne? Ils n'entreraient jamais dans Nîmes. Nous étions au commencement de novembre. À mesure que nous approchions de nos montagnes, il nous semblait qu'un tocsin lugubre sonnait à toute volée dans le mystère de nos cœurs. Une apocalypse effrayante nous ouvrait ses visions. Les Cévennes flambaient. Quelle émotion à l'aube, quand, parvenus au sommet du Castanier, dans un bois où nous comptions passer la journée, entre Saint-Romain-de-Tousque et le Pompidou, nous découvrions, Florette et moi, la valle française où ma mère Fermine nous avait nourris. Par ce matin froid de novembre, parmi le vaste paysage où l'automne rouillait et rougissait les bois, je pensais à la pure joie qui, sur ces mêmes cimes, m'emplissait, il y avait à peine un an, à la vue du pays natal. Maintenant, j'y revenais en fugitif, traqué de toutes parts comme une bête fauve. Déjà, il nous avait fallu ruser pour dépister les détachements qui battaient le pays dans les alentours de Saint-Jean de Gardoninque. Et si nous parvenions à joindre Castanet, qu'espérions-nous? Comme l'avait dit Cavalier, les féroces soldats de Julien tenaient toute la terre. Et, très ému, je contemplais la valle française qui n'était point encore détruite. J'apercevais Sainte-Croix, Gabriac, le moulin du Rivet. Je devinais derrière la colline de Soulages les châtaigniers du Montredon, les ruines de nos demeures, le tilleul qui abritait la tombe sanglante de mon père, le juste et le martyr. Florette, qui disait en moi, me serra dans ses bras. « Délivre ton âme, » dit-elle, « ne savoure point si avant l'amertume des deuils, Dieu nous mène. » « Hélas, petit ami, ne vois-tu pas lui regardons sous la canale du Rivet? Te souviens-tu quand nous y venions avec Isabeau et Nicole? Comme nous y avons ri et joué. Regarde la maison de tante Cassagnas, j'en reconnais l'escalier avec le tournevent. Il y avait là des pots de basilic et de verveine, et un gros chat roux qui dormait toujours et que nous n'osions toucher. Oui, dit-elle, me tenant enlacée tendrement, je vois la maison de Cassagnas, je vois Gardon qui lui, et là-bas au pied de Gabriac, je devine la hutte qui nous abrita de l'orage quand devant Dieu nos âmes s'accordèrent. Le petit chemin du Rivet, Florette sur les granites roses, le reconnais-tu? Nous nous sommes arrêtés à ce coin de rocher, rappelle-toi, Jean. Oui, c'est là que tu me refusas ton baiser à cause du cantique de Salomon, car je n'étais plus ton frère, disais-tu. Nous nous regardions, les yeux brillants de larmes naissantes, et nous nous étreignîmes éperdument. Es-tu toujours mon frère, Jean chéri? Et toi, ma sœur de toujours, Florette adorée? Ah, pourquoi Dieu ne nous accorde-t-il pas d'être époux? Nous sommes plus qu'époux, Jean. Ne vivons-nous pas d'une même vie? Avons-nous rien de caché l'un pour l'autre? Ne t'ai-je pas soigné et pensé comme une épouse tendre quand tu fus blessé? Elle vit ma tristesse et me sourit. Reprends confiance, Jean. Dieu nous accordera aussi le délice des époux. Nous entendrons bientôt la voix des anges et l'heure du bonheur viendra. Florette ainsi me réconfortait et j'en avais certes besoin. Maintenant, tout nouveau spectacle était pour moi une tristesse nouvelle. Nous commencions à rencontrer des habitants fugitifs dans l'accablement du désespoir. Dès le hameau du Castanier, nous entrions en pays condamné. Les maisons vides et non encore brûlées baient de toutes leurs ouvertures. Les villageois expulsés de ces demeures, où ils avaient été nourris et menacés de mort, s'ils y revenaient, n'avaient laissé là que ce qu'ils ne pouvaient emporter. Un silence lugubre y régnait, troublé seulement çà et là par les bonds de quelques chats, seules bêtes qui fussent restées. Ce jour-là était le 7 de novembre. L'un après l'autre, des fugitifs isolés ou par groupe nous y joignaient, s'attachaient à nous, ne voulaient plus nous quitter. Nous reconnaissions parmi ceux qui montaient de la vallée le vieux Raffinesque de Sainte-Croix, avec sa femme et sa fille Claudie, qui portaient un nourrisson, Rouvière de la Pelucarrier, Nougarède et Féline de Gabriac. Ceux de Sainte-Croix, disait Rafinesque, avait l'ordre de se rendre à Saint-Romand. Mais nous sommes restés jusqu'aujourd'hui. Comment faire ? Ma fille était en mal d'enfant, et maintenant il faut fuir, car l'apostat est arrivé au Pompidou pour en brûler les dépendances, et s'il nous surprenait dans nos demeures, il nous égorgerait sans pitié. Nous n'avons rien pu emporter. Nous allons devant nous, sans savoir où, à la garde de Dieu. » Claudie nous apprit que la cousine Aberlinque et la tante Annette étaient internées au Pompidou, que le château du Montredon n'était rasé qu'à moitié, car la solidité de ses maçonneries avait bientôt rebuté les démolisseurs. L'incendie non plus n'avait pas tout détruit au Mas Roger. Mon frère y venait souvent du désert. Il s'y était aménagé un abri et avec l'aide de quelques voisins, il entretenait le domaine autant qu'il le pouvait, y faisait quelques cultures. Cette année, il avait eu un peu de moisson et de vendange. Même il était venu faucher la prairie du Rivet. Et récemment encore, des gens de Sainte-Croix lui avaient prêté la main pour la cueillette des châtaignes. Ces détails nous emplissaient d'émotions. J'admirais cet amour passionné de la terre qui était dans le sang de ma race. Je m'attendrissais en pensant que j'allais revoir bientôt ce Nicolas Peyrobe, mon frère, qui, entre deux combats, songeait au blé et aux vignes.